Rémy de Gourmont, le pèlerin du silence, à Stéphane Mallarmé. Le blond troupeau bourdonne autour du fier sultan, du sultan aux cornes d'argent. C'est Tauris, courtisée de plus de collines que l'amour n'amène d'amoureuse, que la peur ne presse de jeunesse au flanc du mâle flamboyant. Sur les coupoles, les arbres font de la dentelle. À l'île jaune, à Seine, couleur de rouille. Gazen, la bouche blanche, et des lunes brisées brillent sur tous les dômes. Au plus creux de la vasque sableuse, deux rivières joignent leurs eaux confluentes. La verte Spincha, douce et trouble au printemps, non moins qu'un œil de femme, et l'Adji, noir temps salé. Zahel, méprisonne ça, mon cher, au bazar, où l'on vend des étoffes brodées de contes de fées, au café, où de tremblantes mains défrisent la chevelure parfumée des adolescents. Quand il avait fait ses dévotions à la mosquée du roi du monde, cet inquiétant coffret, tout doublé d'or, tout vêtu d'or, il portait, il sortait de la ville, montait vers les yeux d'Ali, l'ermitage fleuri de rêves, radieux, comme les yeux du plus beau des califes. D'autres fois, à l'heure de la moindre chaleur, il rôdait sur la grande place, s'arrêtait devant une danse de loups. Tauris avait les meilleurs loups danseurs de toute la Perse, devant un combat de béliers, se ruant férocement la tête contre tête, des paquets de préservatrices allumaient, mulettes sonnaient à leur cou comme des sonnailles, devant la lutte aérienne d'un aigle et d'un épervier, les deux oiseaux faisaient en l'air, et, tandis qu'étourdi, l'aigle remigeait en vain. L'épervier, tel qu'une pierre de foudre, se laissait choir sur son ennemi, et tous les deux tombaient avec de grands bruits d'ailes. L'épervier, grisé par les clameurs, reprenait son vol, planant ça et là dans sa joie, mais l'oiseleur, d'un coup de tam-tam, le rappelait vers la cage. Un mystérieux escamoteur se montrait périodiquement, et ces magies qui enchantaient les enfants déconcertaient les mollas. Dans une poignée de terre, un noyau de pêche, et voilà que, sous l'agitation de son turban déroulé, le pêcheur surgissait, poussait du bois, des feuilles, des fleurs, des fruits qui se gonflaient, veloutés et vermeils. Voyant cela, Zahel se demandait s'il n'est point des mots qui domptent la nature et si l'esprit de certains prédestinés n'a pas sur les choses une domination pareille à celle du vent sur les sables. Mais quand il interrogeait Yézid Hadji, son maître, le maître souriait et rien de plus. Depuis longtemps, précocement sage, il avait délaissé les jeux, le gojafé, qui se joue avec des signes peints sur de petites planchettes, les œufs, où l'on choque au plus fort des œufs durs et dorés, les échecs, où l'on crie « Chase Clamat » quand le roi va être pris, l'arc, où on lâche 12 flèches en disant dans la dernière « Entre au cœur d'Omar ». Il ne se plaisait qu'aux entretiens de Yézid ou solitaire. Jusqu'en ces derniers temps, on l'avait vu royalement habillé, chemise de soie perse semée d'astres d'argent, jupe en cloche d'un père assombri, bombant autour des cuisses, juste au corps soutaché ou sur un œil doublé avec la laine des moutons de Bactriane, plus fine et plus soyeuse que les cheveux de blonde, jambière en gris d'acier à talons rouges, babouche de chagrin, père, turban blanc, sommet d'un chat diamant. Zaël possédait de semblables costumes combinés en jaune-orange, en rose turbie, en vert lavande, en vent de mer et en vert aventurine, mais n'emportait aucun. La robe noire lui suffisait, pourvu qu'elle fût de drap souple, doucement fourrée et tombant en beaux plis. Jadis, c'était un jeune homme de médiocre savoir, dissipateur et fou, pourtant inquiet, tel qu'un avare de la richesse intellectuelle dont il portait en lui le sombre trésor. Yézid lui enseigna toutes les sciences, dont la première et celle qui les contient toutes est le silence, avec cette formule « Regarde en toi-même et tais-toi ». Il faut, lui dit son maître un jour, qu'avant de te vouer à la permanente méditation, avant d'assumer un irrévocable mépris pour le verbe, qui n'atteint jamais le point central que déformé dans sa trajectoire par la répulsive épaisseur des cervelles humaines, il faut que tu voies le monde. Prends un cheval et des serviteurs. Gagne Ispahan. C'est le centre de la sottise et de la cupidité universelle, car la ville est peuplée 10 fois comme Tauris, et l'ignominie natale, invétérée en toute créature, n'atteint son épanouissement parfait qu'au milieu du grouillement tumultuaire des larges capitales. Va, que la monnaie soit ton seul truchement. Et, sans proférer aucune syllabe, tu seras compris. Zahel se mit en route, ayant fait le vœu du silence. Il passa par l'humide Vaspinge, strié de ruisselets, flabellé de peupliers, brodé de la glauque frondaison des saules, par l'Adjiaga, où pâturent le ventre dans l'herbe des générations de chevaux noirs issus du formidable troupeau de 100 000 crinières qu'entretenaient là les anciens rois de Médie, par des villages blancs, par des plaines rouges, par une montagne bleue. Il passa par Sir Cham, le caravansérail des sables où l'on soupe d'un ragoût de chèvre pimenté de yilit noir, par le pays d'Aratakien, qui n'est que de charbon bleu et de bruyère rose, par Zerigan, fleur des ruines, le village acrobate, poussé comme des giroflées sauvages d'entre les disjonctures des vieux murs écrasés, par Sultani, le pays des roses fanées, des tours penchantes, des mosquées aux dômes crevés, aux pavés qui bousculent les folles herbes, les hystériques végétations qui dansent la sarabande dans les temples hantés. Il passa par Hébert, où, tout en jardin, naguère perspective de pêcheurs et en fleurs, et dans les cultures, les tulipes barbares, les frangis anémones, les jasmins grimpeurs de jonquilles, les narcisses, les muguets, les lys, les œillets jaunes, et les œillets, couleur de sang, les diaphanes mauves et la rose. À Casbin, il but du vin violet, qui semblait une effusion d'améthyste. À Com, où chacun en son clos repose les 500 fils d'Ali, il acheta une épée qui ployait comme un jonc, s'enivra d'eau fraîchie dans le ventre des oiseaux blancs, fuma du tabac noir mêlé du chenevis, mangea les tartines de graisse du cabri saupoudrées de graines de pavot, dormit sous un platane, ce qui préserve de la peste, assista à l'autodafé d'un guidab, cet arbre magique dont les fleurs empoisonnent le vent, visita les fontaines souterraines et la mosquée des deux rois, près de laquelle une enceinte aux grilles sacrées emprisonne d'inviolables roses, nées de la chair de Fatmé. Un prêtre veillait. Zahel souriait de ses doigts comme distrait des tomes d'or tombèrent sur le sable et Ses yeux fixaient le plus large des roses. Le prêtre apporta la rose à Zaël, et Zaël, sans même la respirer, les feuilleta d'une chiquenaude, content, car pour une simple aumône, l'incorruptible gardien des inviolables roses avait vendu les roses, son vœu, la majesté des tabernacles et la virginité de la fille de Moussa, fils de Gazer. Cachan fut la dernière étape. Avant d'entrer dans cette ville redoutée, il avait murmuré en lui-même, selon l'usage, « Scorpion, je suis étranger, ne me touchez pas !» Il fut piqué, mais guéri par une vieille femme qui lui en offrit une jeune. C'était, disait-il, une assez sauvage gazelle, volée à des vignerons, mais Zaël apprit la vérité. « Ma petite maman, susurra la mignonne, attendait le voyageur résolu à payer le prix de ma réelle beauté, et c'est toi, je suis ton esclave. » Il la fit déflorer par son premier serviteur, Tamas, et avant de la rendre humiliée aux mains maternelles, voulut qu'elle subît les fougues barbares de son palefrenier Piri, de Kofrou le muletier et du convoyeur Mizatrvar. Quelques heures plus tard, il touchait à Ispahan. Une petite maison meublée, pourvue d'esclaves, lui fut indiquée. Zaël l'arrêta et chargea Tamaz de l'urgente acquisition de quelques femmes, car un homme dépourvu de femmes est taxé de mauvaises mœurs. L'hypocrisie exige un certain décor à Ispahan comme à Tauris. Elles étaient convenables et toutes trois blondes, mais teintes en brune, avec des sourcils d'idole, une mouche noire au coin de l'œil et une violette au menton. Il les habilla magnifiquement, attacha des pierreries au bout de leurs tresses tombantes, voulut les chemises de la plus caressante soie, les manteaux du plus magistral d'amas, les voiles de la plus rêveuse dentelle, boîtes de senteurs flottantes à des chaînes d'or, anneaux à tous les doigts et à tous les orteils, colliers de perles, pendants d'oreilles et bouches de narines, baquets d'inutiles bagues pendulant comme des amulettes entre leurs seins. Il leur donna un souper, elles mangèrent les dattes de jarron conservées en des courges creuses, des pistaches fricassées au sel, des pavis, des grenades blanches et des roses, des prunes de Bokhara, des abricots à chair rouge dont on grignote l'amande, le noyau souvent aisément d'un coup d'ongle, du raisin bleu cultivé par les guèbres de Nesabad et qui se sert sur un lit de violette. Toutes les trois reçurent les faveurs du maître. Elles le souffrirent avec complaisance en créatures qui savent que l'homme ne saurait être le dispensateur d'aucun plaisir et que la femme seule connaît les ressorts secrets d'une chair de femme. Zaël désormais les laissa s'amuser entre elles et corrompre à leur aise un jeune et divin petit eunuque qu'il leur avait choisi comme joujou. Dans un café, au milieu des fumeurs d'asium, des joueurs d'échecs, des dormeurs, un molla prêchait et ensuite faisait la quête. Tout à coup, se dressant de même qu'un songe, un derviche lançait d'une puissante voix de hurleur un aphorisme sur la vanité du monde et retombait dans ses prières. Le poète conteur qui commençait l'histoire de Moussa chez les pharaons fut interrompu par une troupe de danseuses. Elles roulaient des ventres nus au nombril peint d'une fleur obscène et quand les jupes glissaient sur les cuisses, leur sexe épilé faisait songer à de grandes fillettes impubères et lascives. Calmé, Quelques-unes et quelques turbans en disparurent vers le fond du café, mais la luxure allait aux jeunes circassiens qui apportaient les narguilés et les tasses avec de languides allures. Et à chaque instant, le service s'interrompait. Toute cette jeunesse étant en proie dans les salons secrets à de lucratives émotions. Zahel, qui voyageait pour s'instruire, ne résista pas à la curiosité de sa race. Mais ces jeunes complaisants joignaient la capacité de la gueuse à la niaiserie de l'enfance. C'étaient des joies vraiment désolantes, vraiment trop évocatrices du désert, où pérégrins maudits, nos désirs fantômes ne joignent que des spectres. Il eut d'autres désillusions, il les eut toutes, car il acheta tout. Il fut quasi, il fut mokaïb, il fut vakadevis, il fut daroga, il fut vizir, il fut chef des porte-flambeaux, par l'ordre exalté et inexprimable du très haut et très saint Seigneur, vicaire de Dieu. 8 jours après, reprenant son état de philosophie libre et obscure, il écrivait à Yézid « La vie ne contient rien, le silence même est inutile. Relève-toi de mon vœu, relève-moi de mon vœu. Je veux pouvoir dire aux hommes que je les méprise. » « À quoi bon ?» répondra Yézid. « Ils le savent, mais tout leur est indifférent, hormis la jouissance. » Il n'envoya aucun messager vers Tauris. Le ciel du soir s'alanguissait là-bas de fumées amarantes. Zahel traversa les faubourgs. De rouges yégaris sommeillaient adossés au mur d'un corps de garde. Et la pointe bleue de leur bonnet s'inclinait, semblait saluer les passants. Partout, rasant le sol comme un flot, couvrant les toits d'une neige imprévue, dressant en l'air des trombes croulantes de l'Immaculée, des pigeons blancs, quelques têtes huppées, animaient un instant les trous multiples des lourds colombaires. Au-delà des portes du couchant, la nuit éploya ses noires tartaratanes étoilées d'argent pâle. Zahel marchait toujours. Il était bien réellement à cette heure le pèlerin du silence. Aucun grelot ne sonnait dans son crâne, nul verbe ne luisait dans les limbes de sa pensée, et il allait, goûtant la fraîcheur du soir, et la douceur des négations définitives. Zahel marchait toujours, et la nuit éployait ses noires tartanes lamées d'argent lunaire. D'un bois de saule une chanson monta. « Celle qui tient mon cœur, m'a dit languissamment, pourquoi donc es-tu triste et pâle, mon charmant ?» m'a dit languissamment, celle qui tient mon cœur. Celle qui tient mon cœur m'a dit moqueusement « Quel miel d'amour a donc englué mon charmant ?» m'a dit moqueusement celle qui tient mon cœur. Moi, j'ai pris un miroir et j'ai dit à la belle « Regarde en ce miroir, regarde, ô ma cruelle !» Et j'ai dit à la belle en brisant le miroir « Comme une perle d'ambre attire un brin de paille, la longueur de ton teint m'appelle, je défaille, je suis le brin de paille et toi la perle d'ambre. Apportez-moi des fleurs fleurantes et des cinames pour animer le cœur de mon roi qui se pâme, des cinames pour son âme et des fleurs pour son cœur. » Zahel entra dans le bois de saule. Penchée vers la fontaine, une jeune fille emplissait des outres. Elle était charmante, bras nus, cheveux roulés et son voile envolé. Avec de grands yeux calmes, elle regarda l'inconnu. Zahel s'approcha et, s'agenouillant, toujours muet, leva vers son menton un pli de sa robe. « Si tu es le roi, dit la jeune fille, retourne en ton palais. Et si tu es l'ange visiteur, remonte au ciel. Mais si tu es un voyageur, ferme les yeux, car je suis dévoilé. » L'outre qu'elle plongeait dans la fontaine lui glissa des mains, et ses naïves lèvres se laissèrent courir par les lèvres de Zahel. Elle ne parla plus, et dans l'adorable silence des vallées endormies, Zahel, pour la première fois, buvait un peu d'âme. Maintenant, blottie au flanc de l'homme dont elle serrait les genoux de ses bras adorants, la femme redisait passionnément le chant de la Vierge. « Apportez-moi des fleurs florentes et des cinnames pour animer le cœur de mon roi qui se pâme, des cinnames pour son âme et des fleurs pour son cœur. » Zahel songeait à des paroles de son maître. « Si tu trouves le désintéressement et qu'il ait des vêtements d'homme, prosterne-toi, le front dans la poussière. Mais s'il a des vêtements de femme, prends cette femme et rentre dans ta maison. » Ayant songé, il tira sa bourse et la vida dans la robe entr'ouverte, mais la jeune fille secoua sa robe et pleura. Alors Zahel rompit son vœu. « Viens, tu es celle que je ne cherchais pas. Viens et dis-moi ton nom. Mon nom est Amante et je t'aime. » Dans l'adorable silence des vallées endormies, Zahel, pour la première fois, buvait un peu d'âme, et Amante, amoureusement, picorait les pièces d'or et une à une les fourrait dans sa chevelure. Ils étaient deux au plus creux de la vasque sableuse. Deux rivières joignaient leurs eaux confluentes, la verte spiricha, douce et trouble au printemps, non moins qu'un œil de femme, et l'algie, noir, torrent salé. Ils étaient deux sur les coupoles, les arbres faisaient de la dentelle. À Lila jaune, à Seine couleur de rouille, Kazem la toute blanche, et des lunes brisées brillaient sur tous les dômes. Ils étaient deux, le blond troupeau bourdonnait autour du fier sultan, du sultan aux cornes d'argent. C'était Auris, courtisé de plus de collines que l'amour n'amène d'amoureuse, que la peur ne presse de pleureuse au flanc du mâle flamboyant. « Vous êtes deux, » dit Yézide avec une ironie qui troubla Zahel. « Vous êtes deux ?» « Regarde en toi-même et tais-toi. »